Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Pierrick Fay, le présentateur du podcast des Échos. Cette semaine, la story se met en pause lecture, 4 épisodes pour vous raconter des tranches de vie et des destins parfois extraordinaires. Jusqu'à l'âge de 13 ans, je voulais devenir dessinateur. Puis l'appel de Zeus est arrivé, le dessin est passé au second plan. Mon seul but était d'avoir un ordinateur. Jordan Mechner y est parvenu. Il a gagné un peu d'argent en faisant des caricatures et sa sœur lui a prêté le reste. Il va pouvoir apprendre à programmer grâce à la lecture des magazines spécialisés. Quelques années plus tard, il en fera son métier, concevoir des jeux vidéo, à commencer par un certain Prince of Persia.
La légende parle de la force la plus puissante de l'univers. Les sables du temps. Ils sont contenus dans une dague sacrée. Certains ont juré de la protéger. D'autres sont prêts à tout pour la posséder. Et d'autres ont un destin qui en dépend.
L'histoire d'un fugitif venu d'un pays étranger et qui va sauver le royaume et épouser une princesse. Un jeu qui va marquer l'histoire de la culture vidéoludique. Une histoire marquée aussi par un destin extraordinaire, celui de son grand-père et de son père, qu'il a raconté en images comme un retour aux sources. Jordan Mechner, vous avez 14 ans lorsque votre papy a écrit ses mémoires, il a tout rédigé à deux doigts sur une machine à écrire, ça remplissait 4 classeurs, 1000 pages, sans compter des centaines de photos, de lettres et de documents divers. Jordan, jeune, vous avez mis du temps à vous intéresser à cette histoire familiale. La faute à un Apple IIe ?
Oui, c'est vrai. C'était en 78 que mon grand-père a fini ses mémoires. Et cette année-là, j'avais justement réussi à acheter mon premier ordinateur Apple II. Donc, j'avais 13 ans, j'étais déjà obsédé par la programmation. Et donc, j'étais en train d'essayer d'apprendre à programmer les jeux. Donc, je n'avais pas le temps de lire un mémoire familial de 1000 pages à ce moment-là.
C'est là que va commencer votre vie dans le jeu vidéo. C'est un achat qui va vraiment changer votre vie?
Oui, c'est... Bon, il y a beaucoup de chance. Il y a du destin dans la vie, mais aussi de la chance. Et comme je disais, quand j'avais 11 ans, j'avais le projet de devenir dessinateur, auteur de BD ou peut-être animateur de dessins animés. Mais c'était justement le moment où l'ordinateur personnel est arrivé avec l'Apple II et aussi les jeux d'arcade comme Space Invaders et Asteroid. Et comme j'avais l'âge d'être attiré, d'être fasciné par ce nouveau truc, j'ai consacré toutes mes énergies dedans. Mais si j'étais né 5 ans plus tôt, ça n'aurait pas été ça, ça aurait été autre chose.
À 18 ans, en 1984, vous êtes étudiant à Yale et comme passe-temps, vous réalisez votre premier jeu, Karateka. On est très loin du jeu Avatar d'Ubisoft en termes de graphisme. Un personnage très pixelisé, vêtu de blanc, se bat avec ses pieds et ses poings dans un temple devant une montagne, le Mont Fuji. À l'époque, Jordan, il fallait savoir tout faire.
Alors, dans cette époque, c'était vraiment le début. On n'avait pas encore des écoles de jeux vidéo. Même au lycée, il n'y avait pas de cours de programmation. Donc, évidemment, il n'y avait pas d'Internet. Donc, il fallait juste trouver une façon d'apprendre la programmation, de faire des jeux. Je parlais aux amis qui essayaient de faire leurs trucs. Et il y avait quelques magazines qui parlaient des jeux d'ordinateur. Donc, je lisais cette magazine avec attention. Je cherchais des astuces pour apprendre à faire des trucs. Donc, oui, pour ce premier jeu, pour Karateka, par exemple, il fallait faire et la programmation des outils. parce qu'il n'y avait pas encore d'outils pour faire des graphismes, animations et tout ça. Il fallait les créer. Il fallait faire les graphismes, l'animation, le son. Il y a mon père qui a composé la musique pour le jeu. Il a joué sur un piano parce que c'est un bon musicien classique. Et moi, je l'ai converti en code d'ordinateur pour jouer les notes de la mélodie.
Vous avez fait travailler toute la famille, y compris votre frère, c'est ça?
Eh oui, Karateka était mon premier jeu. Le deuxième était Prince of Persia. Ça, c'était en 85, quelques années plus tard. Mon frère avait 15 ans, donc j'ai demandé de mettre un pyjama et de grimper, sauter, courir, et faire tous les mouvements qui étaient nécessaires pour le petit prince du jeu. Et donc, je l'ai filmé en VHS, en vidéo, et en rotoscopie, j'ai converti cette tournage en dessin animé. Et c'est ce qu'on voit dans le jeu. C'est le prince, c'est mon frère, à 15 ans, qui saute, etc.
Pourquoi un jeu de combat, Karateka, d'ailleurs?
Alors, avec Karateka, c'est le moment entre les jeux d'arcade classiques comme Space Invaders et la nouvelle génération des jeux qui n'existaient pas encore. J'avais envie de faire un jeu avec une histoire. Donc, j'avais l'idée d'avoir des combats de karaté, parce que c'est une mode de gameplay facile, sympa. C'est toujours attachant quand on se trouve face à un ennemi. Donc on a peur de mourir, on a envie de gagner. Mais je voulais mettre le cadre d'une histoire qui donne une raison. Pourquoi on se bat? C'est pour sauver la princesse, pour sauver sa bien-aimée qui a été kidnappée par le méchant. C'était super simple, mais il fallait que l'histoire soit simple parce que c'était des personnages de 40 pixels.
Il a bien marché, je crois. Ça a été un succès.
Oui, encore que j'ai de la chance. J'étais encore à l'université, j'avais 19 ans quand Karateka est sorti. Et oui, c'était un succès, c'était numéro 1 dans les ventes. Quand j'ai fini l'université, je n'étais pas obligé de chercher un emploi tout de suite. J'avais le luxe de pouvoir continuer à créer des jeux vidéo et de prendre un an, deux ans, trois ans si nécessaire pour essayer de faire quelque chose de bien. Et là, le jeu que j'ai fait juste après l'université, c'était Prince of Persia. Et c'est grâce à Karateka que je pouvais le faire.
Karateka s'est vendu à 500 000 exemplaires, un chiffre énorme pour l'époque, les consoles de jeux et ordinateurs n'étant pas aussi répandues qu'aujourd'hui.
You win! Perfect!
En 1985, vous avez 21 ans et vous partez en Californie pour développer un jeu qui va marquer l'histoire du jeu vidéo, c'est Prince of Persia. Quel souvenir gardez-vous des 4 ans de développement de ce jeu?
Prince of Persia, c'était un moment important pour moi parce que j'étais jeune adulte, donc j'étais en train de faire ces jeux, mais c'était aussi la première fois que j'étais indépendant, j'étais plus chez mes parents, j'avais un appartement, je suis New-Yorkais, je suis déménagé en Californie chez Broderbund Software pour faire ces jeux. Donc c'était un projet important, mais c'était aussi ma première vraie relation, premier amour, première voiture, premières expériences professionnelles. Donc, il y a tout ça. Et dans Replay, je raconte un peu le côté personnel de la création du jeu. J'avais une amie, ma copine de l'époque, Tommy. Je lui montrais ce que j'étais en train de faire. Elle m'a donné des conseils très précieux, dont le plus important, c'était de rajouter des combats.
Est-ce que vous vouliez en faire un héros non violent?
C'est ça. Karateka avait été un jeu de combat. Avec Prince of Persia, j'avais l'idée de faire le contraire, de faire un jeu où il y aurait des puzzles, des dangers, mais pas de combat. Et elle me disait, ça c'est bête, il faut avoir du combat, sinon le jeu ne sera pas marrant. Et j'ai résisté, j'ai dit, non mais il n'y a pas assez de mémoire dans l'ordinateur, avec toutes ces animations fluides de mon frère qui grimpe, qui saute, etc. Il n'y a pas la place pour avoir un ennemi, mais elle a gagné l'argument. Il y a du combat dans Prince of Persia.
Et elle a eu raison, parce que le jeu s'est très bien vendu, là aussi, ça a été un très très gros succès.
Et oui, et je pense que le combat était essentiel, un ingrédient important.
Une séance de combat dans Prince of Persia en 1989 et sa référence, un film de KPDP, Le Robin des Bois avec Errol Flynn. Jordan, vous avez aussi publié sur YouTube les vidéos de votre frère utilisées comme base pour le jeu et on le voit notamment escalader des murs. On
comprends aussi à la lecture de Ripley la difficulté déjà à obtenir des financements pour créer un jeu vidéo.
Oui, à cette époque, dans les années 80, c'était moins cher parce qu'il y avait que moi. Et donc, si j'arrivais à payer le loyer et à manger, donc je serais capable à finir le jeu. Comme faire une BD aujourd'hui. L'encre, ça ne coûte pas très cher. Mais maintenant, c'est autre chose. Dans le jeu vidéo, on a besoin d'une équipe. Et l'équipe, ça peut contenir une dizaine ou des centaines, voire plusieurs centaines de personnes spécialisées, chacun avec une formation dans un métier spécialisé dans les jeux vidéo. Donc ça coûte cher, c'est comme faire un film hollywoodien.
Après Prince of Persia, il y a eu un autre jeu, The Last Express, qui vous a demandé beaucoup de temps. Ça a eu des retards. Financièrement, ça a été très difficile, ce moment-là.
Oui, après Prince of Persia, j'ai attaqué un projet plus ambitieux, peut-être que même au point de la folie. Donc, j'ai monté une société, j'ai créé une équipe pour recréer le dernier voyage de l'Orient Express en 1914, à l'aube de la Première Guerre mondiale. Donc, c'était... Oui, c'était un projet qui a pris 4 ans. Et oui, tout mon argent et presque toutes mes forces à finir.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'Orient Express à destination de Strasbourg, Munich, Vienne, Budapest, Belgrade, Sofia et Constantinople va partir. Les passagers sont priés de monter à bord des voitures.
Ce voyage, le dernier voyage de l'Orient Express dans une Europe qui s'apprête à plonger en guerre en 1914, c'était aussi une façon de rappeler l'histoire de votre famille.
Oui, je pense que le lien était un peu subconscient à l'époque. C'était juste que cette période m'intéressait. Et c'était au cœur de créer le jeu. Je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de liens avec mon histoire familiale. Et j'évoque dans Ripley, quand mon père raconte à sa tante ce que je suis en train de faire, ce jeu vidéo, qui ça se déroule sur un train entre Paris et Vienne, elle dit mais nous, on a pris ce train, pas en 1914, en 1938. Et c'est vrai parce que ce train, l'Orient Express, passe à travers de Paris à Istanbul, ça passe dans les régions qui seraient bientôt en guerre. Et qui étaient encore une fois en guerre au moment où je faisais ce jeu. C'était en. J'étais à San Francisco avec l'équipe en 1993. C'était le moment de la guerre en Serbie et Croatie. Et maintenant, malheureusement, il y a aussi des bombes qui s'explosent pas loin.
Et puis, il y a un moment qui va compter. C'est le français Ubisoft qui s'installe à Montréal. Vous vous étiez alors un petit peu éloigné du monde du jeu vidéo. Et Ubisoft vous fait replonger, pourquoi ?
Alors, oui, on parle du premier remake, du deuxième volet du Prince of Persia, parce que le jeu original 2D, je l'ai fait dans les années 80, mais 15 ans après, c'était un ancien jeu classique, pas oublié, mais pas courant. Les jeux étaient passés aux consoles en 3D, et oui, c'était Ubisoft qui était à l'époque une société française de jeux vidéo qui venait de monter un super studio à Montréal. Donc, ils m'ont proposé de faire un nouveau Prince of Persia. Donc, je suis allé à Montréal, j'ai travaillé avec une équipe là-bas et on a fait Prince of Persia, les sables du temps. Et ça, c'était inspiré par le jeu original Prince of Persia et c'est peut-être que la version que la plupart des jeunes joueurs aujourd'hui rappellent.
Oui, c'est vrai que c'est un peu ce jeu qui est resté finalement comme référence. Il y a eu un film aussi derrière sur lequel vous avez travaillé. Prince of Persia, c'est devenu, je le disais, une référence, une marque iconique dans le jeu vidéo qui a influencé, si j'ai bien compris, d'autres jeux. On parle beaucoup de Tomb Raider, sorti en 1995. Prince of Persia, pourquoi pas Princess of Persia, d'ailleurs.
Si vous avez lu...
Je vous taquine.
ouais. Si vous avez lu Ripley, vous savez déjà qu'il y a ma fille qui, depuis l'âge de 5 ans, me pose la même question. Et papa, pourquoi tu fais toujours Prince of Persia, pourquoi jamais princesse? Et bon, elle a raison. J'ai essayé de faire une princesse de Persia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je le raconte dans Ripley, dans le livre.
Alors, il faut lire hein, effectivement ce livre où vous racontez aussi votre décision de quitter Los Angeles pour le sud de la France, pour un nouveau projet. C'est aussi pour vous et vos proches la découverte des subtilités de la France, notamment l'administration française. J'aime beaucoup cette petite touche. Les questions existentielles, pourquoi les dîners durent 4 heures et pourquoi est-ce qu'on ouvre tout le temps de nouvelles bouteilles de vin? Pour un Californien, c'était surprenant.
Oui, la question éternelle. Et L'autre question, pour avoir le carte de séjour, est-ce qu'il faut présenter un certificat de naissance qui a moins de 3 mois? Parce que pour moi, ma date de naissance n'a jamais changé. Donc l'original, pourquoi n'est plus valable?
Il y a le cas aux États-Unis, effectivement, pas besoin d'en ressortir un tout récemment. Oui.
Il y a plein de petites différences comme ça entre les systèmes, mais c'est marrant aussi. Et j'adore la France, je me suis toujours senti à l'aise ici. Et je me demande maintenant, est-ce que c'est parce que mon père a passé une partie de son enfance en France sans le vouloir? Il m'a transmis quelque chose, c'est les bons souvenirs qu'il a gardés de Paris en 38-39, avant l'occupation, au moment où Paris était pour lui une ville de lumière, mais aussi une ville où il était bien, il était safe avec sa famille. Et moi aussi, j'ai toujours eu une impression positive de Paris. J'habite maintenant à Montpellier, donc il y a beaucoup d'ex-Parisiens. Mais moi, Américain, je me trouve bien à l'aise en France.
Vous le disiez, hein, les budgets pour les jeux vidéo ont progressé, les enjeux financiers sont plus les mêmes, on se rapproche de budgets du cinéma. Vous attendiez à ce que l'industrie du jeu vidéo devienne aussi forte, aussi puissante dans le monde ?
On dit maintenant que l'industrie des jeux vidéo a dépassé le cinéma et la télévision. Je pense que ça dépend de façon de calculer les chiffres, mais ce qui est sûr, c'est déjà un grand médium, grand public, très important. Et dans la technologie, je pense que les jeux vidéo se rapprochent à la création des films et le contraire aussi, parce que dans les nouveaux films, il y a tellement d'images de synthèse et des outils qu'on utilisait avant pour les jeux vidéo. Je viens de voir, par exemple, le nouveau Indiana Jones et je pense au premier Indiana Jones d'il y a 42 ans. J'avais 17 ans quand je l'ai vu et c'était une influence importante, une grande inspiration pour le premier jeu Prince of Persia. Donc il y a le même sorte d'action, mais à l'époque, il fallait le faire pour de vrai. Maintenant, tout est fait avec l'ordinateur.
Vous regrettez un peu le côté artisanal de vos débuts, que vous retrouvez peut-être aussi dans les romans graphiques?
Et je pense que c'est une chose qui m'attire dans la BD, parce que quand les outils deviennent de plus en plus puissants, on peut tout faire en images de synthèse, on peut donner l'illusion de tout ce qu'on imagine. Ce que j'aime bien dans la BD, c'est qu'on prend un papier, je prends un stylo dans la main, je touche le stylo au papier, je dessine et c'est tactile. J'aime bien ce côté humain et je pense que je ne suis pas le seul. Quand je lis un livre et surtout quand je lis une BD, c'est sur papier. Je touche le papier, je vois les images sur le papier, je tourne la page. Et bien sûr, on pourrait faire la même chose, on pourrait mettre les mêmes informations sur un écran, mais je pense qu'on perd quelque chose.
Il y a une phrase, moi, qui m'a marqué dans votre livre. Vous la mettez dans la bouche de votre compagne d'alors, qui a travaillé aussi dans cette industrie du jeu vidéo. Elle dit « Le développement du triple A », alors le triple A, hein, ce sont des jeux à gros budget, « ce développement détruit les vies et les familles ». C'est assez fort. On sait que plusieurs grands studios ont été critiqués sur les réseaux sociaux, notamment pour la rudesse de leurs conditions de travail. C'est aussi votre constat?
Oui, mais c'est normal. Dans les grands projets, grands budgets, il y a un gros pari par la société. Il y a une pression énorme sur les équipes et les gens. Donc, du coup, c'est pas rare que les gens de l'équipe se sont obligé de ne pas voir la famille, les enfants, de rester longtemps au bureau. Le stress continue pendant 2 semaines ou 2 mois, mais 2 ans. On parle du crunch perpétuel parce qu'originalement, le crunch était « Ok, cette semaine, on fera un crunch, on va finir. » Et « Ok, vous n'allez pas voir vos familles pendant une semaine. » Mais maintenant, c'est dommage quand ça arrive, ça ne devrait pas arriver. Et je pense que les studios sont au courant que ça existe, que ce n'est pas bon. Mais ça arrive quand même dans les projets que on dit, bon, c'est tellement important, c'est juste qu'on n'a pas le temps de perdre. Donc, il faut que tout le monde bosse au maximum. Et oui, comme ma compagne dit dans la page dont vous parlez, oui, ça peut détruire la santé et la vie familiale.
J'ai une petite question concernant le premier Prince of Persia. Il y a un peu de l'histoire familiale dedans aussi?
Oui, c'est marrant. C'est encore une fois l'un de ces liens inconscients. C'est sûr que je n'ai pas du tout pensé à l'époque. Quand j'avais 20 ans, j'ai inventé l'histoire pour Prince of Persia, une histoire mille et une nuits avec une princesse kidnappée, un vizier méchant, un héros mis dans le donjon. Mais maintenant, quand j'y pense, je vois un lien avec l'histoire de mon grand-père et de mon père parce que c'est un héros qui, face à un ennemi beaucoup plus puissant, qui a une armée, qui a des donjons, qu'il est mis dans un donjon et donc lui seul, il doit se sauver. et sauver le royaume. Et en plus, coïncidence, je ne sais pas où, dans le premier jeu, j'avais dit que le prince, c'est un aventurier de notre pays, c'est-à-dire un réfugié qui se retrouve en Perse, qui tombe amoureux de la princesse et qui est jeté dans un donjon par le grand vizier méchant. Donc oui, je pense qu'il y a un rapport.
Il y a un autre rapport, inconscient aussi, même, d'ailleurs, même pas inconscient, parce que l'idée n'est pas de vous, c'est une petite souris blanche.
Ah oui, il y a ça. Là, j'hésite de le raconter parce que, comme c'est une histoire qu'on boucle à la fin du livre, je ne veux pas faire des spoilers.
On ne va pas le faire alors.
Oui, mais au lieu de ça, je peux parler du tableau. C'était une peinture faite par la sœur de mon grand-père à Paris, entre les guerres, avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 20. Elle avait fait un tableau que mon grand-père me montrait quand j'avais 10 ans, 11 ans. Et j'avais oublié le titre de ce tableau, mais je m'en souvenais bien. Et c'était en train d'écrire Ripley que je l'ai recherché juste pour vérifier. J'étais étonné de voir que le titre de ce tableau était Le Prince.
Merci Jordan Mechner, auteur de Ripley, Mémoire d'une famille aux éditions Delcourt. Un roman graphique émouvant et captivant. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet.